crois que Lula a beaucoup déçu au sein de, des mouvements sociaux, au sein du milieu alternatif et engagé. Faut savoir que Lula est lui-même issu d'un syndicat qui s'appelle la CUT. Voilà. Il y avait un grand espoir qui posait sur lui. Le mouvement des sans terres aussi avait un grand espoir en lui pour faire avancer la cause des sans terres au Brésil. Et malheureusement, il s'est un peu vendu à tout ça et il y a eu une grosse déception par rapport à la dette. En fait, il n'a pas du tout renié la politique du FMI et de la Banque mondiale, mais il a été à fond dans le même chemin et il a décidé de rembourser de manière anticipative la dette au FMI. L'idée, c'était pour lui, c'est une volonté de se dire, si je rembourse de manière anticipative cette dette, je serai d'une manière je serai indépendant et alors je peux après faire ce que je veux. Sauf que c'est par cette manière de rembourser de manière anticipative, c'est renier le fait que cette dette est illégitime et que cette dette, une grande partie, a été contractée sur la dictature militaire brésilienne. Et donc que cette dette, elle n'a pas lieu d'être remboursée puisqu'elle n'a jamais profité à la population et qu'en plus, par le remboursement anticipatif, il ne permet pas à ce que cet argent puisse aller à son peuple et aux Brésiliens qui en ont grandement besoin aussi, quoi. Donc c'est, pour nous, c'est vraiment pas le modèle à défendre et que pour nous, une vraie alternative, ça aurait été de refuser de payer cette dette et de reconnaître que cette dette est illégitime et après de rentrer et de créer des institutions alternatives. Alors on va en reparler un peu plus tard, même si maintenant ils font partie aussi des alternatives qui sont en train de se mettre en place.
Mais il y a aussi un impact de cette décision de Lula sur l'économie brésilienne. En fait, en payant la dette, il doit nécessairement jongler son budget et ses finances. Et donc, quel est cet impact ?
Il signe des accords tout à fait dramatiques avec les États-Unis, par exemple dans le cadre de la production d'agrocarburants. Et donc, c'est tout à fait dommageable, évidemment, et pour l'agriculteur et pour l'environnement, de devoir se vendre aux États-Unis alors qu'il avait dans les mains la possibilité, en reniant la dette, d'agir totalement autrement et de combattre cet oncle Sam qui domine l'Amérique du Sud depuis trop longtemps, évidemment.
Comment vous voyez ça, vous ? Moi, je comprends pas bien comment un métallo, enfin c'est un métallo, Lula, au départ, qui viole le protocole présidentiel en allant jeter dans la foule le jour de son élection, qui quand même, selon certains proches de ce monsieur, y a des gens qui disent que c'est quand même un mec assez sincère, etc. Comment on en vient à un moment donné à rentrer dans ces histoires ? Comment vous voyez ça, vous ? Non, mais vous, par rapport à la dette. Et seconde question dans ma question, est-ce que c'est pas aussi une alternative de se dire, à un moment donné, j'annule la dette, je rembourse tout, et après, on part sur un nouveau schéma ? C'est pas tenable ?
C'est ce que j'expliquais, quoi. Je pense que c'est pas... Je pense que beaucoup de présidents considèrent que c'est une alternative. Le Venezuela a remboursé. Enfin, le Venezuela, par exemple, on pourrait penser aujourd'hui que c'est une alternative, sauf qu'en matière de dette, c'est pas une alternative. Ils ont aussi pensé qu'en remboursant de manière anticipativement cette dette, ils pourraient être indépendants de ces institutions financières internationales. Sauf que pour nous, c'est vraiment... Ce n'est pas l'alternative, puisque... Mais c'est pas reconnaître le fait que cette dette, elle ne doit pas être remboursée. Parce que ça a été toujours un outil de domination des pays du Nord sur le pays du Sud. Que cette dette, elle n'a jamais profité à la population. Et qu'elle a fait l'objet de détournements par les dictateurs, etc. Donc nous, tout le combat qu'on mène sur l'illégitimité de la dette, ça, pour le coup, c'est mis en l'air du jour au lendemain par le jeu de ces présidents qui jouent à fond le jeu de la Banque mondiale et du FMI. Par contre, une des choses qui est aussi intéressante, c'est que le FMI est bien embêté de ces remboursements anticipatifs, puisqu'aujourd'hui, le FMI vit des intérêts, du paiement des intérêts par les pays du Sud. Et donc, il faut savoir que, par exemple, il y a un truc qui est hallucinant, le budget du Congo, aujourd'hui, qui est très très peu, qui représente 2,4 milliards de dollars pour l'année 2007. C'est en gros le budget du FMI pour payer ses salariés. Voilà, pour donner une idée. Et que ces salariés, aujourd'hui, peuvent être payés grâce au paiement des intérêts des pays du Sud.
C'est ce qu'on appelle la charge de la dette. C'est pas ça ? Enfin, les intérêts, c'est la charge sur la dette.
Oui, c'est ça, voilà. Et donc, c'est complètement hallucinant, quoi. Alors ça, c'est sûr que le FMI est bien embêté par quelques pays qui payent encore. Enfin, il y a encore des pays qui payent fortement, comme la Turquie, qui a de gros contrats de prêt avec le FMI. Mais voilà, mais pour nous, ce n'est pas l'alternative. Et pour nous, la vraie solution de base, c'est vraiment de dire... le refus de payer cette dette, la reconnaissance que cette dette est illégitime, et après la mise en place d'alternatives, de nouvelles sources de financement, parce qu'il y en a plein d'autres, et de rompre avec ce processus d'endettement, quoi.
Alors, il y a des pays qui ont toujours historiquement refusé de payer la dette. Par exemple, je pense à Cuba, mais ça peut être contextuel aussi de la part de Cuba, vu le contexte politique, etc. Mais quand même, depuis le début de la révolution cubaine, il y a un refus de rentrer dans les tractations avec le FMI, un refus de prêt à la Banque mondiale, etc. Est-ce qu'il y a d'autres pays que Cuba qui ont décidé, à un moment donné, soit par un changement politique ou je ne sais autre quelle baguette magique, de se dire à un moment donné on ne travaille plus avec le FMI ni la Banque mondiale? Alors je ne parle pas des derniers événements, je parle historiquement, on va y venir après.
Il y a tout simplement le Burkina Faso, donc dans les années 80, exactement en 86, où Thomas Sankara, qui est président du Burkina Faso, dans son discours appelle... dans son discours devant l'Assemblée africaine, appelle au non-paiement de cette dette et refuse lui-même de payer cette dette. Mais par contre, il dit bien, si je suis seul, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Et donc, il savait bien que l'idée, c'est bien de faire un front uni contre la dette et que ces pays du Sud vraiment s'allient ensemble et refusent de payer cette dette aux pays du Nord. Lui a proposé ça. Il a refusé de payer cette dette et il a été assassiné pour ses idées, notamment à cause de ça, quoi.
Alors, est-ce que le FMI et la Banque mondiale ont mis en place des sanctions pour ces pays qui refuseraient de payer ou qui paieraient en retard, ou enfin à part les intérêts, est-ce qu'il y a des sanctions qui existent ?
Généralement, c'est les intérêts qui sont toujours importants et à chaque fois c'est l'augmentation de l'ajustement, les négociations. Le FMI, par exemple, pousse à ce que l'État consulte notamment la société civile pour faire passer un maximum à la population ses plans d'ajustement structurel. Sauf que cette société civile, elle est aussi créée de toutes pièces et que c'est pas la masse populaire qu'on écoute, mais c'est souvent des organisations non gouvernementales, qui sont soi-disant non gouvernementales, mais qui sont bien gouvernementales en l'occurrence. Donc voilà quoi, et donc les plans d'ajustement à chaque fois se renforcent et le but c'est bien d'ouvrir les frontières et de permettre qu'un maximum de multinationales des pays du Nord puissent s'installer, faire du profit dans les pays du Sud et continuer l'exploitation, quoi.
J'aimerais qu'on comprenne bien ce qu'on entend par ajustement structurel, parce que je pense que c'est important, c'est un des outils les plus utilisés par la Banque mondiale et le FMI. Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets de comment, déjà répéter ce que c'est peut-être un ajustement structurel et comment on s'en sert dans le sens de la dette et en gros dans l'arrangement de l'exploitation des pays du Sud par les pays du Nord ?
Ouais, alors en gros c'est l'ajustement structurel, c'est vraiment, alors forcément c'est un peu une caricature aussi, mais c'est vraiment ce qui se passe, c'est modeler le pays et la structure du pays pour permettre l'exploitation par les pays du Nord et permettre à ce que les multinationales du Nord puissent exploiter dans les pays du Sud. Et donc on va limiter tout ce qui est service public, parce que le service public coûte à l'État. Et donc on dit, sous prétexte d'assainir les dépenses publiques, il faut réduire toutes ces dépenses publiques. Donc on n'embauche plus de fonctionnaires, par exemple. Il faut savoir, au Mali, aujourd'hui, on ne peut plus du tout embaucher de fonctionnaires. Donc il n'y a pas de recrutement de fonctionnaires. Et qu'il y a un gros problème qui va se poser dans les 5 prochaines années, c'est que dans 5 ans, il y a la moitié des fonctionnaires en place qui partent à la retraite. et que à cause de cet ajustement structurel, le renouvellement et la formation de fonctionnaires n'a pas pu avoir lieu, et que dans 5 ans il va y avoir un gros problème de carence de fonctionnaires et de gens qui ne sont pas formés, qui vont arriver par exemple dans les administrations. Donc ça, c'est un effet négatif, un des effets négatifs de l'ajustement structurel. C'est aussi l'augmentation des TVA, de la TVA, parce qu'il faut ramener de l'argent dans les caisses de l'État, et donc la TVA, c'est tout le monde, c'est la population, et notamment les classes les plus pauvres qui payent cette TVA sur le pain, l'eau, sur plein de produits de base. C'est aussi la privatisation de la majorité donc des secteurs publics, parce que le secteur public forcément ne fait pas du profit, c'est pas son but. Son but, c'est bien de permettre à une majorité de personnes de bénéficier de ce service.
Là qu'on va pointer la GCS par exemple.
Oui, ça va. En fait, il faut savoir que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, marchent de pair pour modeler l'économie de ces pays et faire qu'ils rentrent dans le modèle libéral. Et l'accord sur la commercialisation, l'accord général sur la commercialisation des services dont tu viens de parler, ça rentre exactement dans cette même politique, quoi, où on privatise un maximum tout ce qui est public et on cherche à faire du profit sur tout et n'importe quoi, quoi. Et donc sur l'eau, il faut savoir que avant il y avait beaucoup de pays où l'eau était gratuite, où l'éducation était gratuite, où la santé était gratuite, et aujourd'hui on retrouve à une eau qui devient payante et où des gens sont obligés d'aller chercher l'eau dans la rivière d'à côté qui est polluée, ou alors qui n'est tout simplement pas potable, et on revoit des maladies bénignes réapparaître. Les hôpitaux, si vous ne payez pas à l'entrée de l'hôpital, vous ne pourrez pas avoir accès à des soins. Voilà, l'ajustement structurel, c'est aussi l'ouverture des frontières, et donc l'État ne peut plus poser de taxes sur le produit qui arrive de l'extérieur, ce qui fait que vous mettez en concurrence un produit qui arrive directement du Nord avec un produit qui est produit par le petit paysan du coin, et forcément, vu notre productivité, nous, au Nord, aujourd'hui, et un paysan qui vit au Mali, y a pas photo, notre lait en poudre va être moins cher que son lait qu'il a sur place, et alors vous détruisez tout le tissu économique local, quoi.
Surtout quand on... Pardon, vas-y, je t'en prie.
Sans oublier que nos produits, pour la plupart du temps, sont bien subventionnés, et qu'une des conséquences aussi des plans d'ajustement structurel, c'est justement supprimer toutes les subventions par l'État, quoi. Justement, toutes les aides qui sont faites aux agriculteurs et compagnie, tout cela doit tomber, passe à la trappe.
Il y a un effet de deux poids deux mesures, quelque part.
Oui, tout à fait. Comme disait très bien Myriam, c'est vraiment favoriser nos entreprises du Nord à pouvoir conquérir des marchés au Sud, et à pouvoir que les multinationales qui sont déjà super fortes vont concurrencer des petits producteurs locaux qui n'ont aucune arme entre leurs mains, quoi.
Alors je voudrais bien qu'on comprenne comment ça se passe. Le FMI et la Banque mondiale dépêchent des équipes dans les pays, clairement, qui vont travailler avec les gouvernements en place pour justement appliquer des ajustements structurels. Alors, je ne sais pas si vous en savez plus là-dessus, mais j'aimerais bien avoir, parce que pour avoir discuté avec un ancien de la Banque mondiale notamment, qui explique très bien que physiquement, c'est des gens du FMI, de la Banque mondiale, en costard-cravate, qui débarquent dans les pays pour dicter les politiques, en clair, à des gens élus par un peuple. En gros, c'est une violation d'une certaine souveraineté, ça.
C'est tout à fait une violation de la souveraineté.
Donc, mais vraiment, ça se passe comme ça. Vraiment, c'est des gens qui débarquent.
C'est exactement ça. C'est vraiment des techniciens qui arrivent de Washington. Il faut savoir que la Banque mondiale et le FMI ont des bureaux dans à peu près tous les pays, à quelques exceptions de près, mais c'est vraiment ça. Et donc, ces techniciens arrivent sur place, négocient directement avec le gouvernement, et c'est des négociations à long terme, et dit au gouvernement, vous devez faire ça, 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 ça. Et le gouvernement, s'il veut avoir un prêt, il a pas le choix. Et il joue, et la majorité des gouvernements jouent le jeu aussi, et donc font cet ajustement structurel. Et il y a un film qui est assez sympa, qui montre bien aussi cette négociation entre la Banque mondiale, le gouvernement, et l'aller-retour à chaque fois, ce qui s'appelle Nos amis de la banque. Et donc, c'est assez hallucinant d'ailleurs de voir cette négociation qui se fait. Et vraiment, quoi, on a l'impression d'être un peu sur une autre planète, mais c'est vraiment des gens qui sont à Washington et qui, selon leur théorie économique, parce qu'il faut savoir qu'il y a des économistes en chef à la Banque mondiale, au FMI, qui inventent des théories, et des fois on se demande comment, où est-ce qu'ils étaient pour inventer cette théorie, parce que il y a une théorie économique quand même à la Banque mondiale qui s'appelle l'effet de ruissellement, et donc qui dit plus vous enrichissez les riches, et plus un jour ça va retomber et ruisseler sur les plus pauvres, et donc ces pauvres vont un petit peu s'en sortir. Et donc ça, par exemple, c'est une théorie qui a été suivie, dit par je crois que c'est Anne Kruger, Anne Kruger, et qui était économiste et qui a lancé cette théorie au sein de la Banque mondiale, et la Banque mondiale a dans ses politiques suivi cette théorie économique. Voilà, et ça a été mis en place, et on voit le résultat aujourd'hui avec l'accroissement de la pauvreté.
Toujours de cette excellente Anne Kruger, une autre théorie veut que le taux de pollution s'arrête lorsque le citoyen gagne, je pense que c'est 14 000 dollars par mois, je ne sais plus, enfin, c'est un chiffre, mais qu'on a déjà atteint et qu'on a déjà largement dépassé. Et donc, d'après cette théorie, qui est absolument suivie et qui fait office de référence, la pollution devrait s'être arrêtée, par exemple, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, parce qu'on a atteint un niveau de développement qui faisait que... ça s'est pas vraiment passé comme ça. Et on a une explosion des 4x4, enfin, c'est n'importe quoi, on pollue toujours de plus en plus. Et on relève en fait systématiquement les taux. Alors il y a des raisons obscures pour le fait que ça ne se soit pas vraiment passé comme ça, mais ça va se passer à l'étape suivante. Et finalement, on se retrouve avec des utopistes, des gens qui délirent complètement, qui dirigent le monde. Et ça, c'est devenu tout à fait inacceptable à l'heure actuelle parce que c'est dangereux.